Souhaitez avoir les notes de ce message, donc manuscrites ou par internet. Si je suis de laisser vos coordonnées sur le registre qui est à la sortie, si je n'ai pas déjà votre adresse mail, par exemple, sur une liste de diffusion, n'hésitez pas à laisser votre adresse et je vous enverrai les notes du message. Comme ça, vous pourrez le relire, le méditer à nouveau. D'accord ? Alors, on poursuit notre série. On a commencé la semaine dernière à parler de la doctrine du péché, de l'homme. On va poursuivre aujourd'hui. On va se poser la question, comment le péché est-il entré dans le monde ? Comment est-il entré dans nos vies, finalement, dans la vie de l'être humain ? On verra aussi comment il peut être vaincu, mais ça, on y reviendra par la suite également. Donc, la Bible est claire là-dessus, Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Le péché est entré dans l'humanité, au moment de ce qu'on appelle la chute. Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, Adam et Ève aussi, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Il est entré par ce qu'on appelle la chute. Verset 13. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Verset 14, on va sauter au verset 14, si on arrive à suivre. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Verset 15, en effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul. Donc toujours pareil, c'est répété, je lis juste des portions là, pour montrer qu'il y a toujours ce lien entre un seul homme, Adam, qui a des conséquences là, des conséquences terribles. Verset 17 maintenant. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné. Là encore, un seul homme, la faute d'un seul. Verset 18. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. Je m'arrête au milieu du verset, on lira la fin après. Donc, une seule faute, et nous sommes tous affectés, contaminés finalement. Verset 19, on termine avec ce verset. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc c'est répété, un seul homme, un seul acte de désobéissance, beaucoup, tous affectés par le péché. C'est clair, Adam, Ève et Adam, on doit dire, ont fait entrer le péché dans ce monde. Nous y reviendrons. Mais comme avec un roman ou avec un film, il nous faut revenir en arrière. Il nous faut, alors, je ne sais pas comment on prononce, une préquelle ou un préquel, c'est un mot qui vient de l'anglais. C'est-à-dire que, voilà, on revient en arrière et on essaie de raconter un épisode avant l'événement que nous étudions, des événements antérieurs au péché d'Adam. Parce que le péché n'a pas commencé avec Adam, en fait. Le péché a commencé dans le ciel, avec la révolte de Lucifer. Il y a deux grands chapitres dans la Bible, Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. On va lire dans Ézéchiel 28 quelques versets pour montrer que, à un moment donné, on ne sait pas quand, mais c'est forcément après le septième jour. Parce qu'après le septième jour de la création, Dieu s'est reposé, enfin le septième jour il s'est reposé, il a vu ce qu'il avait fait, c'était très bon. Donc jusque-là, si tout était très bon, il n'y avait pas de mal, il n'y avait pas de péché. Donc après ce septième jour, quand, on ne sait pas, mais il s'est passé quelque chose. Regardez donc avec moi, on va lire dans Ézéchiel maintenant, chapitre 28. Ah, c'est tout un chapitre que les commentateurs considèrent comme étant une description de cet ange. Ézéchiel, donc, chapitre 28, on va lire à partir du verset 11. « La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de Tyr. » Mais le roi de Tyr, derrière lui, il y a plus que le roi de Tyr. « Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Tu représentais la perfection. » Tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais un Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses. Hein, je passe sur la liste. Verset 14 maintenant. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc c'est un ange. Hein. Et puis, verset 15. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et ce, jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. Et donc, on va passer au verset 17. Je lis que des extraits parce que c'est un sujet sur lequel on pourra revenir. 17. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, voilà un être d'une très grande beauté, un ange, qui créé avant l'homme, à un moment donné, comment ? On ne sait pas, hein. C'est un mystère, on appelle ça le mystère de l'iniquité, le mystère du mal, à basculer, du mauvais côté, à basculer dans le mal. Comment le mal est entré en lui, hein. C'est donc un mystère, hein. C'est comment Anakin est-il passé du côté obscur et est-il devenu Dark Vador dans Star Wars. N'est-ce pas? C'est tout le monde là... troublé, ne comprend pas comment est-ce possible. Comment est-ce possible qu'un être qui avait tout, il avait la beauté, il avait la gloire, il avait la puissance, hein, comment a-t-il pu basculer dans l'orgueil, dans la folie, hein? C'est Ésaïe qui nous décrira cela davantage en disant que son orgueil, c'était de vouloir être au-dessus de Dieu. Je monterai au-dessus du trône de Dieu. Un être parfait, il dit, hein, plein de sagesse, une beauté parfaite, perfection physique, pas encore morale, parce que ce qu'on pense en général, c'est que les anges, tout comme l'homme plus tard, devaient quand même passer un test à un moment donné. Dieu les a créés, mais il a fallu une mise à l'épreuve, une sorte de test, hein, que manifestement Lucifer a raté, ainsi que d'autres, hein, qui l'ont suivi. Et donc, par son orgueil, il est dit qu'il a corrompu sa sagesse. Son orgueil a corrompu sa sagesse. C'est sa beauté qu'il a vraiment poussé à la folie, hein, la folie de se rebeller, de se révolter contre Dieu, entraînant avec lui d'autres anges. Et on va le voir entraînant aussi l'humanité dans sa chute. Et là, on revient à la Genèse, au chapitre 3 de la Genèse. On va revenir à ce chapitre clé de la Bible, hein. Genèse 1, 2 et 3, si vous ne connaissiez que ça, vous connaîtriez beaucoup de choses déjà, hein. Des chapitres fondamentaux. C'est pour ça que tous ceux qui critiquent la Bible veulent détruire ces chapitres. Ils ne veulent pas, ils disent ça c'est de la légende, c'est pas vrai, parce que c'est sûr que si 1, 2, 3 de la Genèse n'existe pas, si c'est de la mythologie, eh bien, tout le reste s'effondre. Il n'y a pas de péché, hein, n'est-ce pas ? Pas besoin de rédempteur. Alors que là, tout est là. Alors, c'est le chapitre 3, avant de le lire, j'aimerais évoquer John Bunyan. Certains le connaissent, le voyage du pèlerin. John Bunyan était un pasteur, du baptiste d'ailleurs, qui a écrit en 1682 le voyage du pèlerin, mais il a aussi écrit un autre livre, La cité de l'âme, que j'avais évoqué dans un message il y a quelques années. Alors là, il aime bien les allégories, et il compare notre âme à une ville fortifiée qui est accessible par 5 portes. Ces 5 portes sont nos 5 sens. Et cette âme, cette ville fortifiée, est l'objet d'une attaque du diable, n'est-ce pas, qui va essayer de rentrer dans cette ville fortifiée. Alors les 5 portes, eh bien, ça va être l'ouïe, hein, par l'oreille, hein, ce qu'on entend, par la vue, hein, le jeu, voilà, même le goût. Et là, déjà, sans aller jusqu'aux autres sens, déjà, on a déjà les 3 premiers sens qui vont être touchés, qui vont être affectés dans la tentation du chapitre 3. Hein, on va le lire maintenant, regardez. Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, donc il parle, il s'adresse à Louis, voilà, la porte, hein, la porte d'entrée. Hein. Dieu a-t-il vraiment dit, t'es sûr? Tu as bien compris ce qu'il a dit, pas bien entendu. Hein. Il a vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Évidemment, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Hein. Déjà, c'est ce qu'il dit est faux. Dieu n'a jamais dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. Hein? Il a dit, vous pouvez manger tout, sauf. Hein? Là, vous voyez comment on peut manipuler la parole de Dieu. Hein? La femme répond, mais nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, elle rectifie. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, vous mourrez. Bon, elle a rajouté, vous n'y toucherez pas. Mais parfois, il vaut mieux pas toucher. Hein. Le serpent dit alors à la femme, mais vous ne mourrez absolument pas. Mensonge. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ça va être vrai. Hein, vos yeux vont s'ouvrir. Mais... Et vous serez comme Dieu. Ça, c'est faux. Vous connaîtrez le bien et le mal. Voilà, donc là, il fait appel, bien sûr, hein, à Louis, il fait appel à flatter quelque chose chez la femme, hein, convoiter l'intelligence, la sagesse, la connaissance, être comme Dieu. La vue maintenant, la femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger. Donc la vue, là, c'est une autre entrée, hein, les yeux, notre porte. Agréable à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Je me demande même si elle n'a pas senti le fruit. Ça sent bon, hein, ça, c'est l'odorat aussi. Hein. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent effectivement et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » En partageant sur ce texte vendredi, je me suis posé la question « Franchement, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ?» J'ai eu peur parce que j'étais nu. Est-ce que c'est la nudité qui a fait qu'il avait peur ? Est-ce que c'est pas plutôt la culpabilité. Il se sentait coupable de ce qu'il avait désobéi. Donc déjà, il y a du mensonge presque. Là. Il cache. Hein. Non seulement il se cache avec des feuilles, mais il se cache dans ses paroles, n'est-ce pas ? On va dire comment c'est déjà bien entré le péché là dans le cœur de l'être humain. Donc l'homme et la femme, là, c'est leur tentation. Les anges ont été mis à l'épreuve. L'homme et la femme sont mis à l'épreuve. Jusque-là, ils étaient parfaits en beauté, hein, certainement aussi, hein, dans leur corps, dans la création. Mais ils étaient innocents, comme on dit souvent. Ils avaient besoin de passer un test, une mise à l'épreuve. Hein, ils l'ont raté, malheureusement. Ils ont échoué. Le diable a instillé le doute dans le cœur, hein, le doute, attention au doute, hein, aujourd'hui encore, c'est comme ça que ça entre, hein, on se pose la question, comment le péché, le mal entre en nous ? Eh bien par le doute. Et le monde autour de nous cherche toujours à nous faire douter, nous dire, tu es sûr, hein, la Bible, hein, tu sais, hein, le doute. Le fait d'écouter, n'est-ce pas ? De regarder, de sentir peut-être, hein, de goûter, ensuite hein, le goût aussi, à l'homme. Hein, notre sens. Hein. Et là, par cette désobéissance, le mal va entrer dans l'être humain, chez Ève comme chez Adam. Donc là, ça y est, l'ennemi est entré dans la cité, il est entré dans la place. Jusque-là, la tentation et le mal étaient extérieurs. Quand vous êtes dans une ville fortifiée, vous pouvez toujours vous défendre. Et tant que vous repoussez l'ennemi, tout va bien. Mais si vous laissez entrer l'ennemi en vous, s'infiltrer, c'est fini, vous aurez l'ennemi dehors, l'ennemi dedans. Et maintenant, c'est le cas. Au point que Jésus dira, on le relira, c'est du cœur de l'homme que sortent les péchés, que sortent les mauvaises pensées, la convoitise, le meurtre. C'est du cœur que ça sort maintenant. Ça ne vient pas de l'extérieur, hein. Ça vient du cœur de l'homme. Donc non seulement le mal, la tentation est à l'extérieur par le diable, et qui sera toujours là pour tenter, mais le mal est en nous, dans notre cœur, et il va être attisé aussi par les convoitises extérieures. Nous serons tentés de l'extérieur. Parce que Le monde entier, maintenant, on l'a vu, hein, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le monde entier, nous sommes tous pécheurs. Donc, même les autres peuvent vous tenter. C'est pas seulement le diable, hein, c'est le monde. Regardez avec moi 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17, qui nous avertit, qui nous dit « N'aimez pas le monde ». N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Hein, ce monde, c'est tout ce système de pensée, de vie qui est opposé à Dieu. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il ne peut pas y avoir dans notre cœur à la fois l'amour pour Dieu et l'amour pour le monde. Le monde dans le sens négatif. Hein. De toute façon, c'est que Dieu a aimé le monde aussi, hein, mais c'est dans un autre sens, pour le sauver. En effet, tout ce qui est dans le monde, alors on retrouve hein, toutes les convoitises, la convoitise qui est dans la chair, la convoitise dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil, toujours l'orgueil, hein, l'orgueil du richesse, l'orgueil de la beauté pour le diable, vient non du Père, mais du monde. Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. Donc voilà, le monde est aussi notre ennemi, le péché peut venir aussi de l'extérieur, peut entrer en nous, hein, la convoitise des yeux, ce qui a trompé Ève, et ce qui nous piège encore aujourd'hui. Attention à ce qui entre par nos yeux. Il dit que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Qu'est-ce qui entre ? C'est pas, ça peut être une porte, une fenêtre, peu importe, mais qu'est-ce que nous lisons ? Qu'est-ce que nous regardons ? Veillons à ce qui pénètre en nous par les yeux. Regardons maintenant trois exemples, trois domaines où on voit le péché qui se manifeste. D'abord, tout de suite, au chapitre 4 de la Genèse, on revient dans la Genèse, chapitre 4. Il y a une première histoire ici qu'on a déjà évoquée, c'est l'histoire de Caïn et d'Abel. Caïn qui va offrir un sacrifice à Dieu, Abel qui va en offrir un aussi. Caïn va offrir des fruits de son travail, hein, de la terre, alors qu'Abel offrira un agneau, ce que Dieu demandait, un sacrifice pour le péché, le sang est répandu. Et on voit la réaction de Caïn au verset 5, 4 verset 5. Il dit « Caïn fut très irrité ». La fin du verset. Juste encore un petit peu, il a dit Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Donc on retrouve ici hein, l'image de la porte, hein, n'est-ce pas ? La porte, comme l'évoquait tout à l'heure Bunyan dans La Cité de l'âme, hein, la porte de notre cœur, la porte de notre âme. Et on voit ici donc que l'homme qui a voulu faire connaissance avec le mal, n'est-ce pas ? Eh bien, voilà le mal qui se présente à la porte. Tu as voulu me connaître, je suis là. Voilà. Je suis là. Est-ce que je peux entrer si tu veux, hein? Je peux entrer chez toi. Mais selon ce que dit ce texte, l'homme a encore le choix, l'être humain a encore le choix. Il lui dit, voilà, si tu agis bien, si tu domines sur le péché, tu peux avoir la victoire. Un appel à la volonté. Dieu explique ici donc le processus du péché, hein, comment le péché il est là, à la porte comme un chien, là, comme personne, un représentant, n'est-ce pas, malhonnête là, qui insiste, et puis quand vous entrouvrez la porte, il glisse le pied là, dans la brasse de la porte pour que vous ne puissiez pas la fermer. Hein. Ah. Hélas, la suite de l'histoire, celle de Caïn donc, et la suite de l'histoire avec un grand H, nous montre que nous faisons presque toujours le mauvais choix. C'est-à-dire, on choisit de laisser entrer le mal, plutôt que de le repousser. Et Caïn, c'est ce qu'il va faire. Hein. verset 8. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs, on va faire une balade, on va se promener. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Rendez compte, tuer son frère. Tiens, tout de suite, le mal extrême, le meurtre, ôter une vie. Rien de plus terrible. Ouais. Dans le Nouveau Testament, il y a un verset qui dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, n'ouvrez pas la porte au diable. Dans ce chapitre, là c'est dans Éphésiens, il y a beaucoup de péchés qui sont énumérés. Là, ça ne parle que de la colère, mais l'idée, c'est que voilà, le péché, moindre péché, ouvre la porte au diable. Ça entr'ouvre au moins la porte. Là. Ça ouvre la porte à d'autres péchés. Hein? Par exemple, voilà, on voit dans l'histoire d'Adam et Ève, au début, comment ils essaient de se couvrir. Hein. Ils ont désobéi, mais après, ils essaient de se couvrir. C'est la femme, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté, ou c'est le serpent, on en rajoute. Hein. David aussi, quand il a commis l'adultère, il essaie de se couvrir hein, en faisant porter le chapeau au mari de Bathsheba, n'est-ce pas? Donc la volonté, ben, on sait qu'elle est affectée par le péché. Parfois, malgré toute la bonne volonté, on n'y arrive pas. On plonge à nouveau. Donc. Deuxième exemple, les pensées. Regardez chapitre 6, verset 5 de la Genèse. Chapitre 6, verset 5, on voit que les pensées sont affectées aussi. Il est un avis que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Le mal, il est bien installé. Hein. Il est bien installé dans le cœur de l'homme, puisqu'il dit qu'à ce moment-là, au moins, hein, c'est arrivé à un point où toutes les pensées se portaient vers le mal. Comme je disais, les gens se levaient le matin en disant « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de mal ?» La nuit, s'ils se réveillaient, ils disaient « Ah, qu'est-ce que je vais faire demain ?» Et c'est ce que nous dit aussi, on va le lire maintenant, Jésus, dans Marc, chapitre 7, verset 20, que j'ai évoqué tout à l'heure. Marc 7, verset 20 à verset 23, qui nous montre que voilà, le péché, maintenant, il est entré en nous et il ressort. Il ressort par la bouche, il ressort par les pensées. Hein, Marc 7, verset 20, qui nous dit que c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Voilà. Plus seulement ce qui entre, le mal est entré. Hein. C'est du cœur. C'est du cœur. En effet, c'est de l'intérieur. C'est du cœur. Voilà. C'est plus de l'extérieur seulement. Hein. C'est de l'intérieur. Le mal est entré, ça y est. Le mal est dans la cité. Le mal a pris position. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ça, les pensées, on ne les voit pas. C'est caché, mais c'est déjà là. Ça commence quand il y a les mauvaises pensées. Ben après, ça continue. Hein. Les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres. Les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, tous ces péchés qu'on a déjà découverts dans les textes qu'on a lus. Hein. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Voilà. Le péché nous souille. On étudie l'évangile de Jean actuellement et on a vu récemment qu'à un moment donné, il est dit... Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote le dessein, le projet de livrer Jésus. Le diable avait mis dans le cœur. Hein, donc là, c'est étonnant ce verset. C'est un peu comme ce passage où Pierre dira à Ananias, un chrétien, un croyant du début de l'Église, hein, qui avait triché, qui avait menti, il avait vendu un champ. Et puis il a porté une partie de l'argent aux apôtres en disant « Voilà, je donne tout l'argent de ce champ pour le Seigneur. » En fait, il ne donnait qu'une partie. Il pouvait faire ce qu'il voulait avec son argent, mais il n'avait pas besoin de mentir. Et il a menti et il est dit « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit ?» Donc Satan qui remplit un cœur, Satan qui met dans le cœur ce dessein, hein, comment est-ce possible, hein? Et ce que je dis tout à l'heure, c'est si on entr'ouvre la porte au mal, eh bien, Satan, oups, il en profite pour suggérer des pensées. Hein, c'est pas... en plaçant devant les yeux de Judas, comme d'Ananias, d'ailleurs c'est l'argent, hein, l'appât du gain, la convoitise des yeux, voilà, c'est ce qui s'est passé avec Ève. Elle a eu tort de discuter avec le diable. Vous savez, Jésus n'a pas discuté avec Satan, hein, quand il a été tenté, il a dit, il est écrit. La Bible dit. Et pour d'autres, ça sera autre chose, ça peut être une odeur. Hein. Une odeur peut vous amener dans la tentation, vous savez. Celle d'un pastis anisé ou d'une cigarette, n'est-ce pas ? Ils vont réveiller des désirs. Ou alors un parfum envoûtant qui cherchait à vous séduire. Pour d'autres, ce sera d'entendre une musique, une chanson qui ramènera une nostalgie d'une vie passée sans Dieu. Vous savez, les Israélites dans le désert, à un moment donné, ils sont arrivés au point, ils rêvaient, la nuit ils faisaient des rêves, ils rêvaient de concombres, de poireaux, de tomates peut-être aussi, mais de melons, hein, de poissons, ils rêvaient de ça, ils en rêvaient la nuit. Ils disaient, oh là là, qu'est-ce que ça nous manque ça, voilà. Donc c'est sûr que l'ennemi, il faisait passer ça comme un film, hein, n'est-ce pas ? Qui nous donnera de la viande à manger ? Ah, on se souvient des poissons, des légumes, maintenant, plus rien que de la manne. Voilà. La convoitise, voilà, l'insatisfaction, les pensées. Troisième exemple, on va lire Jacques chapitre 1, versets 13 à 15, qui nous montre le processus du péché et de la convoitise. Hein, c'est Jacques qui explique cela. Jacques 1, 13 à 15, dans son épître. Il nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Si le mal peut venir de l'extérieur, il ne viendra jamais de Dieu. Amen. N'accusons pas Dieu. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs, sa propre convoitise. Donc, encore une fois, on met l'accent sur le fait qu'il ne faut pas accuser le diable même, ou pas accuser les autres ou le monde, même s'ils sont à l'œuvre. Le mal, il est en nous. Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs ou sa propre convoitise. Puis le désir ou la convoitise, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Je vais lire ça dans la version seconde qui dit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. » Il y a ici une comparaison avec une conception et une naissance. Hein, c'est vraiment ça. Hein. Ça montre que c'est pas forcément... Le péché, c'est pas forcément brutal. C'est un processus, ça peut prendre du temps. Voilà. Donc attention, parce que si vous laissez naître en vous la convoitise et le mal, eh bien, ça peut se développer et amener au pire, n'est-ce pas ? Amener au pire. Consommer ici, ou qui atteint son plein développement, en grec, c'est le mot téléios, qui atteint le but. Télos, c'est le but. Hein. Il a atteint le but. Hein. Le but du péché, c'est de vous amener du mal, c'est de vous amener vraiment dans la chute. Hein. Mais voilà, la leçon ici, c'est que l'origine, elle est en nous. Donc, soyons vigilants. Le péché entre en nous par la désobéissance. Chaque fois que nous désobéissons à Dieu, comme Adam et Ève, eh bien, nous ouvrons la porte au mal. Alors, c'est vrai qu'au temps d'Adam et Ève, il n'y avait pas de loi. On l'a lu tout à l'heure dans Romains, il n'y avait pas la loi, il n'y avait pas les 10 commandements, par exemple. Je cite ce passage, il dit « En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde, etc. » Mais pour montrer que, voilà, il n'y avait pas la loi, mais il y avait déjà le péché qui est entré. Hein, le péché est entré. Mais Dieu avait quand même donné des règles. Qu'est-ce qu'il avait donné comme règle à Adam et Ève ? Il avait quand même donné quelques règles. Ce n'était pas les 10 commandements, mais il a dit « Vous pouvez manger ». Les arbres, sauf l'arbre de la connaissance. C'était la seule règle qui était donnée. Et nous lisons donc maintenant dans Romains, on va voir justement un autre un autre point, Romains 7, verset 7. Romains chapitre 7. Qui va nous parler de la loi, parce que la loi est venue après, donc il y avait cette loi qui était là, hein, cette première loi quelque part, hein, juste très simple, hein, vous ne mangerez pas de... Voilà, c'est un... Et plus tard, il y a eu les 10 commandements, toute la loi de Moïse. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras pas ». Alors là, c'est subtil, hein, tout ça. On va continuer à lire pour comprendre tout ce qu'il veut dire. Hein. On va continuer à lire dans ce passage, verset 7, verset 8. « Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. » En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Mais, alors, qu'est-ce qu'il veut dire là ? Alors, j'ai pris une histoire dans l'histoire avec un grand H. Parfois, il y a eu des erreurs dans l'histoire, des mauvais choix aussi dans l'histoire de l'humanité. Et finalement, l'une de ces erreurs, ça a été la prohibition aux États-Unis. C'était la prohibition. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sous l'influence de mouvements de moralité, n'est-ce pas, anti-alcoolique, une loi est passée qui a interdit la production, la vente et la consommation d'alcool dans tout le pays. Bon. On peut dire, c'est bon, hein, je veux dire, c'était simple, parce qu'à cette époque-là, on n'imagine pas aujourd'hui, mais à l'époque, ils ne buvaient pas du vin, hein, ils buvaient des alcools très forts, et ça faisait des ravages terribles. Voilà, on est une situation, et pas seulement aux États-Unis, mais bon, c'était le cas en l'occurrence. Hein, mais ça n'a pas du tout eu l'effet escompté, ça a eu l'effet pervers, l'effet contraire, c'est-à-dire que la consommation n'a pas vraiment baissé. Et en plus, même, on s'est tourné vers des alcools encore plus forts, un whisky, etc. Et puis surtout, ça a favorisé le crime organisé, la mafia qui s'est emparée de tout ça pour vendre en contrebande de l'alcool. Et donc ça a eu des effets terribles avec des règlements de compte, des meurtres, etc. Donc une loi qui pouvait paraître... Voilà, mais elle a mis en valeur, finalement... a fait ressortir le péché, finalement, le mal qui est dans le cœur de l'homme, là, n'est-ce pas ? Si ce n'était pas la cause, c'était la convoitise de l'argent, l'appât du gain, la violence, le meurtre, etc. Et donc, la loi, on sait, hein, on en reparlera à d'autres moments, mais que Dieu a donné la loi, il n'a pas donné la loi pour que l'homme, en suivant la loi, il soit sauvé, parce que personne ne peut le faire. Mais Dieu a donné la loi pour montrer le péché. Pour que l'homme soit convaincu de péché. La loi, il est dit que c'est comme un pédagogue, hein, comme un professeur, comme un enseignant qui nous conduit à Christ pour nous montrer, voilà, tu vois, phrase des commandements, est-ce que tu as respecté ? Non. Non, je n'aime pas Dieu de tout mon cœur, non, c'est vrai que je mens parfois, c'est vrai que je désobéis, c'est vrai que etc. J'ai des mauvaises pensées, voilà. Donc tout ça doit nous convaincre de péché et nous amener... au salut. Mais voilà, parfois la loi, Paul disait ici que voilà, ça. Ah, vous savez, parfois il suffit d'interdire quelque chose. Hein, vous interdisez quelque chose et. C'était donc le pasteur de Paris, Emmanuel Bozzi, à un moment donné, sur son site, il avait mis un panneau sans interdit. Vous savez, site internet, sans interdit. Voilà. Ah, sans interdit, hein. Voilà, et tester un peu pour voir, est-ce qu'on est tenté de cliquer dessus pour voir pourquoi c'est interdit, hein, ça. Et ça, c'est tout le problème de la convoitise du péché qui est dans le cœur, là, et c'est là. Donc, il suffit qu'on dise non, ah, j'aime bien savoir quand même qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est ça. Hein, combien le cœur est tortueux. Hein. Alors, relisons maintenant Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, on a vu les premières parties des versets. On va lire la deuxième maintenant. Romains chapitre 5, à partir du verset... je vais commencer à partir du verset 15, là. Verset 15, où il est dit... Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. Le don gratuit, c'est Jésus qui a donné la faute, c'est celle d'Adam. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul... La grâce de Dieu est le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, on continue, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, à tous les hommes. Christ est mort pour tous, hein. On insiste là-dessus, hein. Tous peuvent être acquittés, tous peuvent être justifiés, tous peuvent être pardonnés par le sacrifice de Christ. Regardez 19, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul, Jésus. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, on l'a dit, hein, voilà, avec la loi, il est comme, ah, il y a ce péché-là aussi, je ne savais pas, ça c'est aussi, c'est mal, on se rend compte qu'on est, on est pécheur sur toute la ligne. Hein. Mais là où le péché s'est multiplié, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est beau ça. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice et pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Et... On lit un dernier verset, Romains 7, verset 24, hein, c'est la conclusion un peu de tous ces chapitres, où Jésus dit, où Paul dit, pardon, malheureux être humain, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Et verset 25, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà. C'est Jésus qui peut nous délivrer du péché, nous donner la victoire. De même que par un seul homme qui a désobéi, le péché est entré en nous, a affecté, contaminé toute l'humanité. De même par un seul acte d'obéissance, sacrifice de Jésus, nous pouvons tous être pardonnés, purifiés, justifiés. On n'en a pas fini avec le péché, parce que malheureusement, nous gardons une nature pécheresse, hein, n'est-ce pas ? Mais voilà, on reviendra là-dessus quand on parlera de la sainteté... la nature humaine, des deux natures aussi, parce que, voilà. Mais voilà, il y a des promesses si extraordinaires, hein, et des avertissements qui nous montrent que voilà, nous devons prendre garde à nous-mêmes, parce que le péché il est en nous aussi, dans notre cœur, hein, dans nos pensées. Mais il y a des conseils du Seigneur, voilà, appel à la volonté, appel à l'obéissance, à donner tout notre être, comme on l'a lu tout à l'heure, de se donner au Seigneur entièrement pour qu'il nous remplisse son esprit qui est en nous. On a l'esprit de Dieu qui vient en nous. Hein. Et l'esprit, il est appelé le Saint-Esprit. Justement parce que le fait qu'il habite en nous, c'est une personne sainte qui habite en nous et il veut nous sanctifier. Hein. Il veut nous transformer à l'image du Seigneur. Prions. Notre Père, nous te remercions pour ta sagesse. Tu avais vu par avance le péché. Tu avais vu la chute, tu avais tout vu, et pourtant tu n'as pas changé ton programme, tu n'as pas changé ton plan, mais tu as aussi prévu le moyen d'être racheté, d'être sauvé, en donnant ton propre Fils. Seigneur, nous sommes dans l'émerveillement et dans l'étonnement devant ta grandeur, ta sagesse, et nous te disons merci Seigneur. Tu es sage, tu es un Dieu d'amour, et nous nous inclinons devant toi, Seigneur, ce matin. Pendant que nous sommes justement recueillis et dans le silence, j'aimerais vous donner l'occasion de donner votre cœur au Seigneur ce matin. Ce cœur souillé, ce cœur d'où sort le péché, le mal, le Seigneur peut le purifier, le Seigneur peut le changer. Vous donner un cœur nouveau, vous pouvez naître de nouveau ce matin si vous n'avez pas le cœur. Êtes-vous né de nouveau, êtes-vous sauvé ce matin? Est-ce que vous pouvez dire ce matin, je sais que je suis un enfant de Dieu? que j'ai la vie éternelle, que mes péchés sont pardonnés. Si ce n'était pas le cas, j'aimerais vous donner l'occasion de le faire. J'aimerais prier pour vous. J'aimerais vous inviter à le manifester en levant votre main. Priez pour moi, pasteur. J'ai besoin. J'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de purifier, de pardonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière? Amen, oui. Je vais prier pour vous. Encore quelqu'un qui aimerait ce matin, voilà, oui. Seigneur, connais vos besoins, hein? Voilà, je vais prier, Seigneur, tu connais chaque cœur. Tu lis dans les pensées, tu vois le péché, tu vois le mal, tu vois les doutes, le trouble. Seigneur, purifie ces cœurs ce matin, donne la délivrance, la victoire, le salut, si tel est le besoin, la purification, Seigneur. Et que chacun ici puisse repartir avec cette paix, cette joie de savoir que Christ est le libérateur. Amen. Termine ce culte.